France Inter, Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le lundi 3 mai, bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un avant-goût de liberté avec la première étape du calendrier de déconfinement. Fini la règle des 10 km et retour en classe pour plus de 4 millions de collégiens et de lycéens qui seront, comme leurs enseignants, régulièrement testés. Reportage dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
Et un premier procès pour tenter de percer la personnalité de Nordal Lelandais. Les élections régionales, sondage France Inter Ipsos en Ile-de-France où Valérie Pécresse semble hors d'atteinte. L'Irlande du Nord reste divisée, 100 ans jour pour jour après sa création, reportage à Belfast. Et une soirée de folie à La Rochelle pour fêter une première qualification au final de Coupe d'Europe de rugby.
Les invités d'Inter ce matin, 7h50 Léa.
Il n'y a pas que le Covid dans la vie, Nicolas. La politique reprend ses droits. Si, si, lentement mais sûrement. Coup de tonnerre à 2 mois des régionales avec l'accord La République En Marche, Renaud Muselier en PACA. Emmanuel Macron cherche toujours plus sa droite. On en parle avec le chef du parti majoritaire à l'Assemblée nationale, Christophe Castaner, qui sera avec nous à 7h50.
À tout à l'heure Léa. À 8h20, on se retrouve pour le grand entretien de la matinale. Avec le négociateur en chef du Brexit, il publie la grande illusion, journal secret du Brexit chez Gallimard. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard vous attend.
France Inter.
Retour en classe donc ce matin pour les collégiens et les lycéens après une semaine d'enseignement à distance, 2 semaines de vacances et à nouveau une semaine en distanciel avec des classes en demi-jauge au lycée et pour les 4e et les 3e dans les collèges des 15 départements les plus touchés par la pandémie. La nouveauté, c'est aussi le recours aux autotests, 60 millions d'exemplaires attendus d'ici fin juin, dès cette semaine pour les enseignants et à partir de lundi prochain pour les lycéens. Alors il va falloir s'organiser, comme l'a expliqué à Claire Ceccalini, ce proviseur en Seine-et-Marne. Reportage.
C'est triste. C'est pas ça un établissement scolaire.
Freddy Leroux, proviseur du lycée Charlotte Delbault dans la cour de récréation.
C'est pas un environnement désert. C'est des jeunes en train d'attendre pour aller en cours ou lire un livre au CDI.
Toute une vie qui va reprendre avec une jauge réduite de moitié, mais à l'évocation de la nouveauté de la rentrée, les autotests sur site, le proviseur lève les yeux au ciel.
On doit avoir en charge tout un planning chaque semaine pendant les mois de mai et de juin sur ces autotests avec des parents qui vont pouvoir éventuellement changer d'avis en disant c'est bon, on va arrêter au bout de 2-3 autotests, je veux plus que mon fils soit testé, ça peut devenir très rapidement compliqué.
D'où de longues journées en perspective pour gérer les 550 élèves de l'établissement.
Déjà avec le tracing, on ne s'arrêtait pas samedi et dimanche. Là, on s'apprête à faire quelques très bonnes soirées pour prévoir nos plannings et pour savoir quel adulte on va pouvoir mettre en face de certaines classes pour les tester.
Quoi qu'il en soit, Freddy Leroux est impatient de retrouver ses élèves, avis partagé par les intéressés.
Au niveau de l'assiduité, de la rigueur, etc., ben, on perd forcément vu qu'on n'a plus de contact avec les professeurs, on a plus de liberté que normalement.
Oui, je suis content parce que là, la situation actuelle nous permet pas d'être sérieux, surtout ceux qui ont des frères et sœurs, et des connexions, souvent beaucoup de bugs, c'est assez dur.
Et cette rentrée est cruciale pour nombre d'élèves qui vont jouer leur orientation en seulement quelques semaines en cette fin d'année.
Et rappelons que les épreuves du bac, l'écrit de philo le 17 juin et le grand oral sont maintenus. À partir d'aujourd'hui, on peut également circuler à plus de 10 km de son domicile, mais le couvre-feu reste fixé à 19h. Le corollaire, c'est donc une campagne de vaccination qui s'accélère, 15 mai pour les plus de 50 ans, 15 juin pour tous les adultes, avec des vaccins qui s'adaptent aux variants. Les industriels travaillent sur une deuxième génération de vaccins Covid, avec un avantage, Véronique Julia, au vaccin à ARN messager.
Des études en laboratoire l'ont montré, pour être neutralisé, le variant sud-africain nécessite une concentration plus forte d'anticorps que le virus original ou son variant britannique. Très logiquement, donc, les industriels ont assez vite envisagé l'hypothèse d'une troisième dose, un rappel qui viendrait rebooster notre système immunitaire et remonter notre taux d'anticorps plusieurs mois après la vaccination. Pfizer y travaille, de même que Moderna, mais Moderna est allé plus loin et travaille aussi sur une troisième dose qui cible spécifiquement le variant sud-africain. Avec la technique ARN, c'est facile, ça ne prend que quelques semaines de s'adapter. Au lieu d'injecter la séquence ARN qui va conduire les cellules à coder le virus original, on injecte la séquence qui code les mutations du variant sud-africain, voire du brésilien, de l'indien, du californien. L'organisme va alors fabriquer des anticorps spécifiques à ces variants. On est encore en phase d'essai, mais il y a tout lieu de penser que ce sera efficace. efficace. On peut même combiner plusieurs ARN, donc plusieurs variants, dans une même injection. Un virologue nous dit d'ailleurs être assez confiant. Comparé à d'autres virus, le SARS-CoV-2 ne mute pas si vite que ça, nous dit-il, et la capacité d'adaptation des vaccins à ARN devrait nous permettre de gagner la course face aux variants.
Déjà une deuxième génération de vaccins, c'est à lire aussi sur franceinter.fr. Et c'est un peu la rentrée aussi pour les ministres des Affaires étrangères du G7 qui se retrouvent aujourd'hui à Londres pour la première fois physiquement depuis le début de la pandémie. Il était temps, Louise Baudet, car la diplo en visio, c'est un peu contre nature.
Quand un orateur s'adresse à une salle vide,
c'est une salle de 1500 personnes où il n'y avait personne, ça donne une impression orwellienne ou vraiment surréaliste.
Scène immortalisée fin février au Conseil des droits de l'homme à Genève par le haut fonctionnaire onusien Éric Tistounet aux premières loges pour mesurer l'impact de la diplomatie virtuelle.
Vous rencontrez votre copain délégué d'un autre pays, vous lui dites comment tu vas, tes enfants, etc. Tiens, on s'assied là, on discute et on essaye de se mettre d'accord. Tout cela a disparu. Résultat des courses, vous avez plus de tensions, des initiatives qui sont abandonnées, etc.
Et c'est sans doute à Bruxelles que c'est le plus compliqué, au cœur de cette machine européenne où tout doit être négocié à 27. En dépit du Covid, les dossiers les plus brûlants sont d'ailleurs discutés les yeux dans les yeux, question de confidentialité. Les 27, échaudés à l'automne par l'intrusion d'un journaliste dans un conseil de défense en visio.
Quand vous êtes sur un écran, vous n'avez aucune idée qui vous écoute, parce qu'il y a des grandes oreilles, ça devient forcément beaucoup plus formel.
Formalisme incompatible avec certains dossiers, confirme à Paris le Quai d'Orsay. Les ministres des Affaires étrangères et européennes sont d'ailleurs ceux qui vont le plus souvent à Bruxelles. Toutefois, Jean-Yves Le Drian ne fait plus un tour du monde par mois, comme avant la crise. Le ministère promet à ce sujet une réflexion sur l'empreinte carbone de la diplomatie française.
Et en fin de semaine, ce sont les 27 chefs d'État et de gouvernement européens qui doivent se retrouver physiquement à Porto pour un sommet social.
Il est 7h07, l'ouverture ce matin, Agnès, du premier procès de Nordal Leland.
Son nom est apparu dans l'enquête sur la disparition de la petite Maëlys en août 2017 en Isère. Mis en examen pour ce meurtre, il comparaîtra dans quelques mois à Grenoble. Mais grâce à la voiture utilisée par Nordal Lelandais, les enquêteurs ont fait le rapprochement avec une autre disparition. Celle quelques mois plus tôt du jeune chasseur alpin Arthur Noyer, 23 ans, porté disparu alors qu'il tentait de regagner sa caserne en avril 2017 à Chambéry. Le procès s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Savoie. Jean-Philippe Degnaud.
Lelandais a affirmé à l'instruction que le jeune autostoppeur était agressif, qu'il l'accusait du vol de son portable, qu'il a donné les premiers coups et qu'il s'est juste défendu. Cette description d'Arthur Noyer par un Nordal Lelandais qui se dit lui-même impulsif et intolérant à la frustration ne correspond pas à ce qu'était le jeune caporal, décrit par tous comme calme et joyeux, incapable de s'énerver. Son père, Didier Noyer, attend donc de ces deux semaines d'audience que la vérité sorte de la bouche de l'accusé.
Je n'appréhende pas de voir l'autre. Arthur sera là. Et j'espère que celui qui appréhende le plus, ce sera le bon. Nous sommes confiants dans la justice. Nous appelons à la dignité de tous et au respect. On attend que justice soit faite. Voilà, c'est tout.
Douleur et dignité dans cette salle d'audience. Il y aura quasiment deux semaines de débat et au bout, pour l'accusé, une peine encourue de 30 années de réclusion criminelle.
Jean-Philippe Degnaud qui suivra ce procès pour France Inter. Deux réunions demain au siège du parti Les Républicains pour décider de la stratégie à adopter après l'alliance conclue hier entre La République En Marche et Renaud Muselier pour les régionales en PACA. Aussitôt, Renaud Muselier s'est vu retirer son investiture LR. Thomas Legrand y reviendra dans la chronique politique à 8h moins le quart. Et France Inter vous dévoile cette semaine une série de sondages Ipsos pour ces régionales. Gros plan aujourd'hui sur l'Île-de-France, avec largement en tête des intentions de vote, avec 32%, une ex-LR, Valérie Pécresse. L'actuelle présidente de la région Île-de-France s'imposerait au second tour, quel que soit le scénario, Élodie Forêt.
Quelle que soit la personnalité menant la liste de gauche au second tour, en triangulaire ou quadrangulaire, selon cette enquête, Valérie Pécresse s'impose, la présidente de région, favorite avec 32% d'intentions de vote au premier tour et surtout un bilan reconnu par les franciliens, ils sont 62% à le trouver bon. Pas seulement dans ses rangs, les résultats montrent qu'elle séduit également les électeurs macronistes, mais aussi à gauche. 53% des soutiens d'Audrey Pulvar jugent par exemple son action positive. Seul bémol pour Valérie Pécresse, la progression du RN, 19% d'intention de vote, plus 2 points par rapport à la dernière enquête, due selon Brice Teinturier d'Ipsos à l'actualité, l'attentat récent de Rambouillet, avec des préoccupations sécuritaires fortes en Île-de-France. Quant à la gauche, très émietté, trois listes pour le moment, sans compter Lutte ouvrière. L'écologiste Julien Bayou se démarque légèrement de ses rivales insoumises socialistes Clémentine Autain et Audrey Pulvar. comme une indication de qui pourrait prendre le leadership au second tour et à plus long terme pour la présidentielle.
Un reportage en Ile-de-France dans le journal de 8h et rendez-vous demain pour un focus en Auvergne-Rhône-Alpes. Née dans la violence il y a 100 ans, l'Irlande du Nord reste aujourd'hui très divisée entre loyalistes protestants, heureux d'appartenir au Royaume-Uni, et nationalistes catholiques, partisans de la réunification irlandaise. Le Brexit n'a fait que raviver ses blessures avec de nouveaux affrontements ces dernières semaines. Le centenaire de la création de l'Irlande du Nord sera donc très peu célébré aujourd'hui à Belfast. Reportage d'Emeline Vin.
Dans sa petite quincaillerie du quartier loyaliste de Belfast, Jack vend des dizaines de produits dédiés au centenaire.
Des mugs, des pins, des drapeaux, juste pour que tout le monde puisse fêter ça. Notre pays a 100 ans. C'est un petit, grand pays, comme je dis. On a prévu des fêtes de quartier, des jeux pour les enfants, des trucs à manger, et nos fanfares vont jouer.
Rien d'officiel, Covid oblige, et puis la fête ne concerne pas tout le monde en Irlande du Nord. Par exemple, Mairead, qui a la nationalité irlandaise, ne célèbre pas le centenaire, elle le commémore.
C'est terrible pour nous, l'Irlande aurait dû rester l'Irlande. Les Anglais ont profité de la famine pour envoyer des colons, prendre nos maisons et gagner la majorité. Mais nous, nous n'avons jamais voulu être anglais.
Face à la tentation de la réunification, est-ce le dernier anniversaire majeur pour l'Irlande du Nord ? Pas si sûr, estime Cathy Eward, sociologue à la Queen's University de Belfast.
Est-ce qu'on s'attendait à ce que l'Irlande du Nord tienne 100 ans déjà ? On se rapproche d'une majorité en faveur de la réunification. Mais ça ne veut absolument pas dire que celle-ci arrivera demain. La partition, ça a été un processus, ça n'est pas arrivé d'un coup. C'est un sujet extrêmement complexe. En comparaison, le Brexit, c'est de la rigolade.
Dans sa quincaillerie, Jack hausse les épaules. Aucun référendum n'effacera notre fierté britannique. Selon un sondage, à l'occasion du centenaire, 44% des Nord-Irlandais sont comme lui, opposés à la réunification.
Les Irlandais du Leinster, éliminés eux hier en demi-finale de la Coupe d'Europe de rugby par le Stade Rochelet, auteur d'un véritable exploit. Pour leur première demi-finale européenne, les Maritimes se sont imposés 32-23. Une qualification fêtée dignement par les supporters du club hier soir sur le Vieux-Port.
Ça fait du bien par les temps qui courent de vivre ça.
Dans 3 semaines, on ramène la Coupe à la Rochelle. C'est un moment merveilleux. Voilà, yeah.
Au début, on a eu peur. Et c'est en deuxième mi-temps, on a commencé à les manger. Une fois que c'était parti, après, on les a déroulés.
Alors c'est quoi le programme ?
On va prendre l'apéritif, hein. Après, comment on va finir, je sais pas, on verra.
On est en finale ! Finale ! C'est la première fois ! On criait partout !
Alors je vois sur tes joues...
Jaune et noir, couleur du stade ! Demain, c'est l'école, mais soyons fous, hein. Et pas ça va. Ici, ici, c'est la Rochelle ! Ici, c'est la Rochelle !
Un reportage de Julien Morcelli de France Bleu, La Rochelle. Et la finale, ce sera le 22 mai à Twickenham face au Stade Toulousain.
Et ça vous plaît, Agnès. Merci.
Toujours.
Merci, Agnès Soubiran. Le zoom dans 3 minutes, 200 ans après la mort de l'empereur. Ils sont fous de Napoléon.